ça compte avec Éric Auziel.
Quand ça compte avec Éric Mac Auziel. Comment ça va?
Très bien. Toujours très bien. Écoute, c'est samedi, c'est le tailgate. Gros Grand Prix. Écoute, je regardais les différentes publications américaines. Là, le Grand Prix de Vegas, là, maintenant, là, il est devenu quelque chose d'incontournable pour les Américains après la deuxième année.
Ben, c'est sûr.
Les autres, ils viennent de se réveiller, là.
Tu sais, l'année passée, on pensait que ça serait vide, ce Grand Prix-là. Puis là, on s'amusait là, le mardi, mercredi, à dire hey, « regarde ça, là, les rues sont vides, puis il n'y a personne dans les restaurants, puis tout ça. » Finalement, ça a été plein. Puis, c'est-tu quoi, cette année, ça va être la même chose. L'événement est incroyable. Honnêtement, je pense qu'on peut pas dire autre chose. Là. J'ai vraiment hâte de voir cette course-là qui risque d'être spectaculaire. C'est anybody's game. Ça peut être n'importe qui va l'emporter en plus.
Puis tu le sais parce que tu suis ça de plus près que moi, Greg. Pendant longtemps, les Américains, ils se sont cherchés un petit peu parce qu'ils ont le NASCAR, puis ils ont l'IndyCar. Puis maintenant, là, avec Miami, Vegas, aux États-Unis, Austin, on est en train de s'installer, c'est un incontournable. Là. Puis naturellement, les influenceurs, les grandes vedettes ont décidé de joindre à ce mouvement-là. Fait que la Formule 1, partout dans le monde, est en santé.
Oui, et va être encore plus en santé, d'ailleurs, dès 2026. Parce que là, la demande pour les Grands Prix est encore plus forte que ce qu'on est capable d'accommoder. Il y avait eu des rumeurs qu'on voulait amener le calendrier. Là, il y a 24 Grands Prix, on voulait amener ça à 30 courses. Et les pilotes ont dit, garde, moi, si c'est 30 courses, je décroche.
Honnêtement. Non, c'est trop.
Dont le champion du monde en titre. On réorganise le calendrier. Tu as vu la nouvelle comme quoi que Montréal passe à la fin du mois de mai. Ceux qui sont inquiets pour la température, là, il n'y a pas grande différence de température dans ces deux semaines-là. Tu sais, il peut autant faire 30 degrés à la fin mai comme il peut faire 15. Puis c'est la même chose qu'on a vu l'an dernier. Je me souviens, j'étais en couverture au travail là, avec BPM, bien sûr. Puis le dimanche, on gelait dans les estrades pour la course à comparer de ce qu'on avait vu au début de la semaine. Donc, et là, on ajoute aussi, je sais pas si tu savais ça, là, mais les rumeurs sont de plus en plus persistantes, comme quoi que les conversations vont bon train. Au niveau des. D'une nouvelle équipe qui va arriver en 2026.
Ouais.
Donc, Andretti et Cadillac sont en train de réussir leur pari de faire leur entrée en Formule 1 en 2026.
C'était pas chic, ça a été long. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que ça se cogne la tête, ces deux-là, puis finalement, ça va se faire. C'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est important, surtout pour la Formule 1, c'est une année comme cette année où différentes écuries peuvent compétitionner l'une contre l'autre. Ce qu'on a, là, c'est ça qui est sain pour ce sport, jumelé avec naturellement les docu-séries là, comme Drive to Survive. Fait que la Formule 1, c'est vraiment quelque chose d'agréable à regarder parce que tu sais jamais maintenant, cette année, là, tu sais pas qui va le gagner ce Grand Prix-là. C'est Russell qui départ aujourd'hui, qui passe la ligne de départ. Fait qu'on va voir.
Lewis Hamilton qui a échappé sa voiture dans son tour de qualification. Honnêtement, tu le sais, je suis un des plus grands fans de Lewis sur la planète, mais celle-là, c'était pas fort. Là. Tu chiales que t'as une mauvaise voiture, là, et dans ce moment-là, il l'a dit lui-même sur la radio, là, il a dit « big mistake ».
Ouais, puis c'est l'année prochaine, son année de rédemption, on va arriver avec Ferrari, il y a beaucoup d'attentes. Tu sais que moi, je suis sceptique, je trouve que c'est probablement ce qui aura été jusqu'à présent le meilleur de tous les temps. Ça, c'est subjectif, mais... tu peux pas te battre contre l'âge. On l'a vu avec Mike Tyson. Puis ça, si je compare pas des pommes et des oranges, le Tyson, Hamilton, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque année qui s'ajoute dans ta vie, là, t'es un petit peu moins rapide. C'est normal.
Il a déjà fait plus à son âge, par contre, que n'importe quel autre pilote à cet âge-là, dont Michael Schumacher. Et il est capable encore. Il va gagner des courses avec Ferrari, j'en suis certain.
Oui.
Et moi, je pense que l'état mental dans lequel Lewis est présentement, tu sais, c'est pas malin. Il a fini la dernière course au Brésil et il pensait dire, tu sais quoi, ça va être beau pour le restant de la saison. Ça va être correct. Ben... C'était à ce point-là que la relation entre Mercedes et Lewis Hamilton est toxique présentement. Alors, tu sais, quand t'es dans la voiture, et là, il y a une bonne voiture depuis le début du week-end, et tu sais, t'arrives à ton... Imagine là, l'état d'esprit, là. T'as une super bonne voiture, mais tout au long de la saison aussi, c'est arrivé que t'as eu des bonnes voitures, puis t'arrives dans ta troisième session de qualif, on a fait des modifications, t'as pas les bonnes températures de pneus, et t'es pas capable de pousser. Là, finalement, t'en as une bonne. Et, tu sais, j'excuse pas l'erreur de Lewis, mais, tu sais, c'est tellement... je pense qu'on a même pas idée à quel point ça prend tous les éléments pour être capable de faire un tour de qualification parfait. Et ça te prend juste une mini-erreur mentale ou un mini-changement d'état d'esprit pour faire une petite erreur. C'est ce que Lewis a fait. Et je pense que dans la Ferrari l'an prochain, il n'aura pas ça du tout. Il va être, tu sais, un nouveau départ. C'est ce qu'il a besoin. Et j'ai hâte de voir la course demain parce qu'il part dixième. Mais ça, on s'en reparlera parce que là, il faut parler de Connor Bédard.
Qui lui... Ouais, Connor Bédard, qui là, il y a des différentes publications là, qui parlent de Connor Bédard. C'est bon.
On nous l'a vendu points. Comme un générationnel. On a dit, lui, il fait partie de la QV, là, ça fait partie de la catégorie des McDavid, des Crosby. Et je ne mets pas Ovechkin là-dedans, là, mais mettons McDavid, Crosby, des joueurs complets de cette nature-là. Ouais.
Prends les deux profils, là. Crosby, McDavid, à presque 10 ans de différence. Crosby repêché en 2005, joueur de centre canadien. McDavid repêché en 2015, joueur de centre canadien. Bédard, joueur de centre canadien. Donc, tu sais, c'est important au Canada, Bédard, c'est comme le troisième, c'est exactement le même profil. Ça va être un joueur de génération repêché en 2023 par les Blackhawks, une organisation prestigieuse. Les attentes, et avec raison, parce que les stats étaient là, il est arrivé tout jeune dans la Ligue de l'Ouest, il a dominé, il est excellent au niveau mondial, il est excellent, il a dominé, on l'a vu. Donc, les attentes étaient... Puis là, j'ai commencé à regarder, ben moi, ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai commencé à me poser la question en regardant ça. J'ai dit, c'était quoi la première année à Crosby? C'était quoi la première année à McDavid? Les gars ont eu plus qu'un point. McDavid s'est blessé lors de sa première année. Il a eu 48 points, 45 matchs. Bédard s'est blessé l'année passée, mais il n'a pas eu un point par match. Crosby, extraordinaire première année. Il a eu au-dessus beaucoup plus qu'un point par match. Puis là, je me suis dit, OK, on va aller voir la deuxième année. Et là, la deuxième année, c'est Crosby, 120 points. Là, il était établi, il n'y avait plus aucun doute. Même chose pour McDavid, 100 points. Et j'ai dit, OK, bon, je vais aller voir l'équipe avec laquelle les deux gars jouaient avant. Bédard, cette année, ce qu'on dit, et même Luke Richardson le dit, je ne sais pas avec qui le faire jouer. Il y a une partie que c'est lui qui est responsable. Il y a l'autre partie que c'est nous autres en tant que l'équipe. Là, il y a comme un discours un petit peu paradoxal. J'ai été voir, puis tu sais, oui, Crosby, McDavid jouait avec des très bons joueurs. Taylor Hall, il y avait Dreisaitl, il y avait des bons joueurs. Eberle était là, Nugent Hopkins. Fait qu'il était bien entouré. Crosby, lui, il avait de son côté Gonchar. Mario Lemieux, c'était une vingtaine de points. Fait que ça, c'était plus le Mario qu'on a connu. Il y avait Recky, il y avait Leclerc. Il n'était pas aussi bien entouré. Le temps n'était pas encore arrivé. Malkin n'était pas encore arrivé. Ils sont arrivés la deuxième année, mais ils n'ont pas eu autant d'impact. Fait que mon point, là, un long préambule pour dire, si on le compare à McDavid et Crosby, on peut être inquiet. Mais si on le compare à sa QV à lui, là, à part un joueur, il s'en sert bien. Et le joueur à qui on pourrait le comparer, il est repêché septième, c'est Mishkov. Alors, est-ce que il va être meilleur que Mishkov en bout de ligne? Et là, on parle, là, on le fait jouer à l'aile gauche, Bédard. Là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a jamais eu ce doute avec McDavid et Crosby. Il n'y a jamais eu de doute. On leur a donné la pole position en partant. T'es le leader de l'équipe à 18 ans, 19 ans. Puis on ne regarde plus en arrière. Là, Bédard, on va te faire jouer à gauche. Moi, j'aime pas ça quand j'entends ça. Là. J'aime vraiment pas ça. Fait que, il n'est pas très bien entouré, mais si tu es un joueur générationnel, tu vas dominer ta génération, peu importe avec qui tu vas jouer, tu vas briller.
Et oui. Colin, que tu me prends au dépourvu avec la façon que t'en parles. Tu sais, en même temps. C'est ça l'affaire. On nous l'a vendu comme un générationnel. On nous l'a vendu comme un McDavid. Mais encore une fois, Eric, là, il y a 18 ans, Connor Bédard, il joue dans une ligue. Tu sais, oui, une ligue qui s'est rajeunie beaucoup. Mais maintenant, tu sais, Crosby est arrivé dans la ligue. Au début des années 2000, McDavid est arrivé à un moment où, et depuis ces joueurs-là, ce sont vraiment deux générationnels. Mais tu sais, Connor Bédard performe dans une ligue où maintenant, à la première année, tu performes pas tant que ça. T'sais, et est-ce que Gavin McKenna, ça va être comme ça? Est-ce que les autres qui s'en viennent, là, qu'on nous vend comme encore le prochain Messi, le prochain générationnel qui s'en viennent, vont performer à leurs deux premières saisons? Regarde Jack Hughes, qu'on disait que c'était un bust, ouais, qu'il n'était pas bon à son arrivée. Pour moi, Jack Hughes est un des cinq plus gros talents dans la Ligue nationale.
Oui,
essayez de me dire le contraire. Puis actuellement, là, on a la liste des meilleurs joueurs de moins de 24 ans, puis il est premier dans cette liste-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, je suis complètement d'accord, mais il n'y a pas performance ces deux premières saisons.
Je suis d'accord, mais tu sais, je me dis, est-ce que. On va prendre Alexis Lafrenière, qui, moi, j'affirmais haut et fort, parce que je l'avais joué tout son hockey mineur. Je l'avais vu, puis je connaissais son profil. Mais tu sais, ça va être un joueur de génération. Ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas encore. Même qu'on a eu, à un moment donné, une hésitation du côté des Rangers, selon la rumeur, on voulait peut-être le bouger avant de lui donner l'extension de contrat. Il va devenir un bon joueur. Il est un bon joueur à la Ligue nationale, mais ça ne sera peut-être pas le joueur d'impact que je m'attendais à ce qu'il soit. Dans le cas de Connor Bedard, l'autre affaire qu'il faut regarder, là, la première année de McDavid et la première année de Crosby, les gars, là, leur équipe, là, ça a été pourri, une cinquantaine de points, fini quasiment dans la cave. La deuxième année de chacun de ces gars-là, ils ont été dominants sur la glace et leurs équipes ont eu au-dessus de 100 points. Ils ont eu un impact, tu comprends? Ils ont eu un impact. Bon, est-ce que Richardson n'est pas le bon gars pour la job? Je ne le sais pas. Je vois pas assez de matchs des Blackhawks. Dans le cas de Crosby, il y avait Ed Olczyk, ils l'ont congédié la première année pendant l'année de Crosby, puis ils ont mis Michel Therrien. Ça a eu un bon impact. C'est sûr que c'est important. Les Blackhawks, on doit se regarder dans le miroir. Est-ce qu'ils en font assez pour bien l'encadrer? Ou est-ce qu'il va devenir un excellent joueur, le meilleur de sa cuvée peut-être avec Mishkov, mais qui sera jamais au niveau du statut? Puis tu sais, présentement, là, je pourrais te lancer un autre débat que tu pourras avoir avec les auditeurs. Il n'y a pas d'affaire avec l'équipe canadienne des Quatre Nations, là. Il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là. Basé sur ce que je vois cette année, là, il n'y a pas d'affaire là. Alors, si on y va avec potentiel, puis on y va avec, t'es dans le Boys Club, t'as joué avec Team Canada tout le temps, puis on ne peut pas te faire ça, OK. Mais amenez pas comme 13e attaquant. Ça ne donne rien. Il y a des gars qui vont être plus utiles. Parce que regarde l'alignement des Américains, c'est solide en tas, les Américains.
Oui, c'est... J'ai failli enlever ma casquette là, quand t'as dit ça, mais je vais te donner raison là-dessus. Mais tu sais, regardons l'alignement encore des Blackhawks, tu sais.
Oui, il a joué avec Taren Vanen, il a joué avec Foligno, il a joué avec Bertuzzi, il a joué avec Hall.
C'est Bedard, Nick Foligno, Mikhaïev, Anderson, Tyler Bertuzzi, Taylor Donato.
Oui, mais tu sais, il jouait avec des gars en fin de carrière, Crosby, là, des Recky, des Leclerc, c'était encore des très bons joueurs.
Je comprends,
mais
c'était quand même des noms, là, c'est ça, effectivement.
Oui, je suis d'accord. Mais
respect à tous ces joueurs-là. Mais...
Oui, puis respect. Mais ce que je veux dire, c'est... Puis l'autre affaire qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je te dis, je suis pas inquiet, il va être excellent. Mais il sera peut-être pas du niveau de Crosby et McDavid à des gars qui vont avoir au-dessus de 100 points par match, qui vont amener leurs équipes à un niveau où ils vont rendre tout le monde meilleur, tu comprends? Puis là, je suis pas en train de dire que Bedard, ça va être Yakupov. C'est pas ce que je dis. Il va être très bon. Dans sa QV, il va peut-être être le meilleur. Mais il est en train d'apprendre, comme tu dis, puis t'as un bon point. Le hockey de 2024, Greg, là, c'est pas le hockey de 2015. C'est encore moins le hockey.
Non, c'est ça. Et de la façon qu'on juge ces jeunes joueurs-là, tu sais, et encore une fois, est-ce que notre point prouve que à quel point Crosby et McDavid sont des exceptionnels hors de tout doute, ou c'est vraiment que le hockey a changé et qu'on doit attendre avant de voir ces joueurs-là éclore?
Un petit peu des deux.
Est-ce qu'on met un McKinnon, par exemple, dans cette conversation-là? Tu sais, un Makar aussi?
On peut les mettre. McKinnon et... Tu sais, McKinnon, comment je te dirais ça? Un peu comme Crosby a fait ombrage un petit peu à Malkin, pour rien enlever à Malkin. McDavid fait un petit peu ombrage à McKinnon. McKinnon a une Coupe Stanley. Pour moi, Makar, tu me demandes qui je commence mon équipe de hockey, je commence avec Makar. McDavid.
Avant n'importe qui dans la ligue actuellement, là.
Je commencerai avec Makar.
T'annonces que je prends Makar, là.
Mais je peux pas te dire que Makar est meilleur joueur que McDavid. C'est subjectif, tu comprends?
Non, c'est ce qu'ils amènent à leur équipe.
Tu sais, moi, je te dirais que cette année, là, si Connor Bedard avait été repêché cette année, mon choix, au moment où je te parle, pour la meilleure recrue de la Ligue nationale, c'est Lane Hudson. Il a 11 points. Il joue 23-24 minutes par match. Et Bedard a 15 points en 20 matchs. Puis moi, je pense que Leila Thune, avec ce qu'il fait, serait meilleur. Je te dis pas qu'il va avoir une plus belle carrière que Bedard. Je te dis qu'au moment où je te parle, tu comprends? Pourquoi? Parce que je pense qu'un défenseur dans le hockey 2.0 qui joue 24 minutes par match a plus d'impact que certains attaquants qui vont jouer 16, 17, 18 minutes par match.
Sais-tu ce qu'on va chanter après le match de ce soir?
Pardon?
Sais-tu ce qu'on va chanter après le match de ce soir?
Dis-le-moi.
Viva Lane Hudson! Viva Lane Hudson! Ou encore, sais-tu qu'est-ce qu'on va se dire de Lane Hudson après le match de ce soir?
Non.
C'est le meilleur! C'est le meilleur! C'est le meilleur!
Attends. Moi, là où il m'impressionne vraiment... Là,
je voulais juste citer Georges Larac.
C'est au niveau défensif. Il n'est pas si pire que ça.
Et il n'est pas si pire. Il est très bon.
Il est très bon. Et sais-tu quoi? Il apprend vite. Il ne refait pas deux fois les mêmes erreurs.
Il est formidable. J'ai hâte au match de ce soir, Eric. J'ai hâte au Grand Prix plus tard. Georges me texte en ce moment. On salue, Georges. C'était épique hier, encore une fois, votre débat. Et ça va arriver souvent, je pense, les vendredis, de vous avoir les deux qui soyez ensemble dans BPM s'affrontent. Moi, écoute, c'est une raison, les vendredis 15h, de me faire un bol de popcorn puis de vous écouter, les boys, malgré que je vais ben trop rire pour manger du popcorn. Vous êtes deux exceptionnels et des showmen débatteurs.
Georges, c'est un gars du temps de la renommée. Georges, d'ailleurs, la deuxième année, a joué avec Crosby. Il pourrait t'en parler à quel point il est bon. La deuxième année, Crosby a joué dans la Ligue nationale avec les Pingouins. Georges était dans la Ligue.
C'est très vrai. C'est très vrai.
Ouais. Ouais. Georges était là. André Roy était là. C'est que des gars qui peuvent te le dire à quel point, tu sais. Fait que, voilà. Donc, mais tu sais, le débat n'est pas terminé. C'est ce qui est important. On n'est pas en train d'affirmer que Bedard ne sera pas Crosby, ne sera pas McDavid. Ce que je te dis, c'est, je pense que c'est un petit peu de tout ça. La fois que les Blackhawks travaillent mieux, il va falloir que Bedard aussi regarde ce qu'il a à apprendre. Mais moi, j'aime pas ça quand j'entends qu'on le met à l'aile gauche.
Moi non plus. Mais tu sais quoi, on peut continuer ce débat-là demain parce qu'on se reparle en même heure, mon cher Eric.
Oui. Salut à tout le monde. Bon samedi.
Comme dirait Georges, justement. Salut, Big!
Salut, Big, et bonne fête encore à Tony Marinaro.
Oui, effectivement. On a essayé de le rejoindre. Tony n'a pas répondu, d'après moi.
Tony, c'est sa fête avec son épouse. Ça doit être sa fête.
Il a fait son déhanchement, là. Tu sais, je suis en train de danser en avant là, du micro, là.
Big. Ouais, c'est ça, je l'ai vu.
Salut, mon chum.
Bonne journée, les boys.
Salut, toi aussi. Ouais. On est en retard.
Messieurs et mesdames, parce que t'es écouté par les dames.
Oui, c'est vrai. Ouais, on les salue, surtout sur le YouTube Live. Elles sont très actives présentement dans ces conversations. Ouais. On vous salue, mesdames et messieurs.
Bye-bye.
Là, salut, Big. On est vraiment en retard. Ça n'a pas d'allure. Oli est en train de capoter en arrière de la console.